100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La météo est plus clémente. Les traversées de bateaux de migrants ont repris en Méditerranée et avec elles, leur lot de drames. 400 personnes ont encore trouvé la mort cette semaine. Une des pires catastrophes et bien sûr, une de trop. Voilà désormais des dizaines d'années que des centaines de milliers de migrants tentent de fuir leur pays et de rejoindre l'Europe. Ce sont les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne qui sont toujours aux avant-postes de cette tragédie. C'est sur ces terres du Sud, où les migrants ont posé pour la première fois les pieds, que l'on a découvert qu'on pouvait risquer sa vie pour atteindre l'Europe. Cécile Debarge a rencontré ceux qui ont assisté aux arrivées des premiers bateaux et des premiers naufrages.
Fin des années 80 dans le sud de l'Espagne. Les rares embarcations qui risquent la traversée du détroit de Gibraltar sont celles des trafiquants de drogue. Du Maroc à l'Espagne, le trafic de haschich est alors florissant. Policiers et habitants de Tarifa savent bien que parfois les embarcations se retournent. Ildefonso Sena est l'un d'eux. Journaliste dans un quotidien local, il doit couvrir un naufrage, puis un autre. Personne n'imagine que ce sont des migrants.
De plus en plus de groupes de Marocains sont arrivés, de plus en plus nombreux et de plus en plus souvent surtout. La police se disait, mais comment est-ce que c'est possible d'arrêter autant de personnes et de ne jamais trouver de drogue? On n'est pas efficace, vraiment, parce qu'on n'arrive pas à intercepter la drogue. Et en plus, à chaque fois, il y avait non pas 4 personnes comme d'habitude, mais 10 ou 12. Au bout d'un moment, et grâce aux interrogatoires, on est arrivé à la conclusion que ce n'étaient pas des trafiquants de drogue.
Grâce à quelques mots de français, il réussit à recueillir leurs confidences. C'était à la Toussaint de l'année 1988. L'Espagne, puis l'Europe, assistent sans le savoir au début d'un nouveau phénomène migratoire.
En fait, ils étaient partis de Tanger à minuit. À mi-chemin, un fort vent s'est levé. Ils se sont jetés à l'eau en pensant avoir pied, mais ce n'était pas le cas et ils ont entendu les cris de leurs amis qui se noyaient. Ils étaient 23 à bord du bateau. 5 s'en sont sortis sains et saufs. 18 sont morts. Leurs corps sont arrivés sur les côtes les jours suivants. Quelques mois plus tard, il y a eu un nouveau naufrage. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, les morts n'ont jamais cessé.
Quelques mois plus tard, de nouveaux corps sont retrouvés en Grèce, cette fois. Les conflits au Moyen-Orient font la une des journaux et les autorités comprennent rapidement que les jeunes hommes étaient venus demander l'asile. Mehmet Serif Damatoglou, l'imam qui les a enterrés, se souvient d'eux.
C'était 3 jeunes hommes, des Kurdes, qui avaient tenté de traverser la frontière depuis la Turquie. Mais il y avait un champ de mines antipersonnelles et ils sont morts. Leurs corps ont été retrouvés, on les a enterrés. On savait très bien de qui il s'agissait parce qu'ils avaient tous leurs papiers sur eux, y compris leur adresse. J'ai donc écrit à l'ambassade turque à Komotini et aussi aux familles des défunts pour les informer de ce qui s'était passé. J'ai tout envoyé par la poste et bien sûr, je ne saurais jamais si les lettres sont arrivées, mais toujours est-il que je n'ai jamais reçu de réponse.
Lettre aux familles, papier d'identité dans les poches, on est loin des relevés d'empreintes digitales et des sauvetages par la marine. En arrivant à destination, les migrants demandent conseil à la population locale pour poursuivre leur voyage. Toto Martello a été maire de l'île de Lampedusa de 1993 à fin 2002. Quelques mois après le début de son mandat, il a vu arriver un premier bateau.
On a tout de suite compris que c'était des migrants parce qu'ils arrivaient et cherchaient tout de suite la gare. Or, quand ils arrivaient ici, ils ne voyaient pas la gare. Et du coup, ils allaient voir la police ou bien les habitants de l'île pour tenter de comprendre comment partir d'ici. À l'époque, c'était nous, les habitants de Lampedusa et aussi la mairie qui payaient leurs billets de bateau pour partir.
Comme en Espagne et en Grèce, le premier passage en augurait bien d'autres.
Quand on a eu le deuxième, le troisième, puis le quatrième bateau, on les a accueillis. Au fil des mois, on a aménagé un espace où les migrants pouvaient boire, manger quelque chose. C'était la moindre des choses pour les accueillir. Depuis, le problème n'a cessé de prendre de l'ampleur.
Aujourd'hui, la petite île italienne est devenue le symbole des naufrages et des espoirs brisés. Ses 6000 habitants cohabitent avec un immense centre d'accueil d'urgence, souvent plein. Seul le bruit de la mer n'a pas changé. Depuis le début de l'année, plus de 900 personnes ont disparu dans le grondement sourd des vagues de la Méditerranée.
C'est un curieux message qu'a lancé récemment la Croix-Rouge en Finlande. Un appel au don du sang spécifiquement adressé aux immigrés. En effet, les groupes sanguins des migrants ne sont pas forcément les mêmes que ceux des Finlandais de souche. Et la Croix-Rouge craint d'être à court. À Helsinki, Pauline Curté.
A+, c'est le groupe sanguin le plus répandu en Finlande. Près de 40% de la population est de ce groupe. Mais les communautés originaires d'Afrique, notamment les Somaliens, seraient plutôt du groupe O, sans compter les sous-groupes sanguins, tous uniques, environ 200 d'après les dernières statistiques. Or, si le O négatif est un donneur universel très utile en cas d'urgence, il ne suffit pas pour soigner des maladies plus graves. Les leucémies, par exemple, nécessitent la transfusion d'une grosse quantité de sang. Dans ce cas-là, les médecins ont besoin d'avoir accès aux sous-groupes sanguins exacts de leurs patients. D'où la nécessité de faire appel aux immigrés, environ 300 000 actuellement en Finlande. Et aujourd'hui, ils sont encore trop peu nombreux à donner leur sang. Pour attirer les donneurs, la Croix-Rouge finlandaise ne néglige aucune piste. Embauche de traducteurs, allègement de la bureaucratie, assouplissement des règles de don et campagne publicitaire. Car si l'association refuse de donner des chiffres, il semble bien que les besoins deviennent de plus en plus urgents. Un signe parmi d'autres qu'en Finlande aussi, l'immigration est devenue une réalité.
L'Union européenne est très présente dans les territoires palestiniens. C'est d'ailleurs la région hors UE qui bénéficie le plus du soutien européen avec des programmes qui mobilisent près de 400 millions d'euros. Et parmi ces programmes, EUPOLCOPS qui a vocation à former depuis 2006 les forces de sécurité palestiniennes. Quelles compétences peuvent apporter les policiers européens? C'est ce qu'a cherché à comprendre Nicolas Roper en assistant à une session de formation dans le nord de la Cisjordanie, à Tulkarem. Reportage.
Un homme armé est retranché dans un immeuble désaffecté. Les forces spéciales de la police palestinienne interviennent et parviennent à maîtriser le forcené au premier étage du bâtiment. Il est menotté puis embarqué manu militari dans un fourgon. Pas de panique, il ne s'agit que d'un exercice. Les forces spéciales n'ont pas tiré un seul coup de feu, leurs armes sont en plastique. Tout le reste, par contre, est organisé dans les conditions du réel, témoigne le lieutenant-colonel Nihad Rabaina, en charge de cette division dans le district de Tulkarem.
Je suis satisfait de la prestation de mes hommes. Ils ont l'habitude de ces scénarios, ils s'entraînent chaque semaine pour faire face à ce type d'éventualité. Mes officiers doivent toujours être prêts. Ils doivent savoir comment réagir si tel ou tel événement a lieu. Mais depuis que je suis en place, je dois avouer que dans ce district, nous n'avons pas eu à intervenir de la sorte.
Les forces spéciales palestiniennes sont suivies dans leur exercice par leurs supérieurs palestiniens, mais aussi par plusieurs policiers européens qui notent les dysfonctionnements et corrigent certaines erreurs de leurs homologues palestiniens. Parmi eux, Tom MS, un policier finlandais. Il insiste sur le fait que ce sont les formateurs palestiniens qui mènent l'exercice.
Nous sommes à l'origine de cette formation, mais en fait, ce sont les Palestiniens qui la dirigent. Ils sont à la manœuvre et moi, je ne fais que les assister. Nous voulons que ce travail se poursuive, même quand nous serons partis. Et ces scénarios, ils ont tous été imaginés par la police palestinienne. Cela correspond à ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur contexte local.
Lancé en 2006, le programme EUPOLCOPS fêtera l'an prochain sa 10e année d'activité. Selon les responsables européens, la police palestinienne possède aujourd'hui des standards équivalents à ceux des polices des pays voisins comme la Jordanie ou l'Égypte. Pour en arriver à ce résultat, il a fallu aux policiers européens un peu de temps pour dompter la culture locale, comme le résume Jonathan Creeks, porte-parole de EUPOLCOPS.
Ce qui est important pour les policiers formateurs qui travaillent pour EUPOLCOPS, c'est de comprendre comment fonctionne la police palestinienne. Un policier anglais qui vient de Londres va arriver ici avec un mode de fonctionnement qui est celui d'une grande ville. Or ici, on travaille à Tulkarem qui est plutôt dans un mode de fonctionnement de petite agglomération ou de village.
Après un cours théorique, les policiers palestiniens sont confrontés à un nouveau cas. Il s'agit cette fois-ci d'un crime déguisé en suicide.
Voilà, donc ici on a installé une scène de crime dans ce bureau.
Jérôme Buaillon, policier français responsable de la formation police judiciaire au sein du programme EUPOLCOPS.
Le but c'est de vérifier que la première équipe d'intervention puisse faire le travail de base pour sécuriser la scène et aussi faire les premières mesures d'investigation.
Les policiers palestiniens prennent les premières mesures de protection de la scène de crime. Du coin de l'œil, le major Daed Douridi observe leur travail. Ce formateur palestinien se félicite du soutien européen, mais regrette que dans son district de 180 000 habitants, seuls 430 policiers soient employés.
Il est évident que nous souffrons d'un manque d'effectifs. On espère que ces formations qui rendent nos policiers plus performants permettent de réduire ce problème. Si les policiers arrivent à être plus efficaces sur le terrain à travers mieux ensemble et à faire davantage de choses, cela nous aidera dans notre mission. Nous n'avons pas d'autre choix pour compenser le manque de personnel.
Créée après les accords d'Oslo de 1993 avec Israël, la police palestinienne est encore jeune, relativise Jérôme Buaillon.
Bien sûr, la police palestinienne manque d'équipement, donc c'est un obstacle un petit peu insurmontable pour nous, parce qu'on ne peut pas s'entraîner comme on ferait un entraînement dans un pays occidental. Mais malgré tout, avec l'équipement qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont, je pense qu'ils sont vraiment assez opérationnels. C'est une force de police qui est toujours en construction, si on peut dire.
L'an dernier, EUPOLCOPS a formé 650 policiers, mais aussi 350 juges et procureurs palestiniens.
Alors que l'Europe s'apprête à célébrer les 70 ans de la victoire sur le nazisme, Sébastien Gobert nous fait découvrir le Werwolf, un bunker dans le centre de l'Ukraine où Adolf Hitler a séjourné trois fois pour y diriger les opérations vers l'Est entre 1942 et 1943, un musée lourdement chargé d'histoire.
À la lisière d'une forêt de pins, ce sont quelques blocs de béton renforcés qui témoignent encore de la modernité du réseau de bunkers de la Wehrmacht. Après la conquête de la région en 1941, l'organisation Todt avait utilisé des travailleurs locaux et des prisonniers de guerre pour construire un bunker principal et des baraques. Il leur a aussi fallu édifier plusieurs lignes de défense anti-chars et anti-aériennes. Le Werwolf offrait à ses habitants une piscine, une maison de thé, un casino et un cinéma. C'est là qu'une grande partie de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, a été jouée et perdue. Adolf Hitler y a séjourné officiellement trois fois. L'histoire a retenu que lors d'un de ses séjours en 1942, il y avait contracté une sévère grippe à cause de l'humidité de son bunker. C'est avec 40 degrés de fièvre qu'il aurait pris la décision de diviser son armée d'invasion en deux, vers Stalingrad et vers les champs pétrolifères du Caucase. Ce fut là une de ses erreurs stratégiques les plus fatales. Le Werwolf a été dynamité par les nazis lors de leur retraite et c'est aujourd'hui un parc en plein air parsemé de ruines et de panneaux explicatifs qui accueille le visiteur. Un musée multimédia est en construction sur le site. À l'heure où de nombreuses critiques accusent l'Ukraine de vivre sous la coupe d'une jeune fasciste, on ne voit ici aucune glorification de l'occupant nazi. Il est à noter cependant, reflet des enjeux de mémoire auxquels fait face l'Ukraine, que la narration des souffrances de la population et de la résistance patriotique oblitère curieusement le rôle de l'Union soviétique. De même, s'il est fait mention des Ukrainiens qui ont caché et sauvé des Juifs de la persécution nazie, on ne trouvera pas ici un mot sur ceux qui ont collaboré avec les occupants et participé à la Shoah.
Et c'est l'heure de notre chronique musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Vous nous faites découvrir le deuxième album d'un groupe allemand assez inclassable.
Au printemps 2013, je vous avais proposé une chanson d'un jeune trio allemand, César, qui publiait à l'époque son premier album. Ses trois amis d'enfance avaient alors à peine terminé leurs études et vivaient encore à Ladau, la petite ville du sud-ouest de l'Allemagne qui les avait vus grandir et où ils avaient formé leur groupe à l'adolescence. César est aujourd'hui de retour avec un deuxième album et de l'eau a coulé sous les ponts. Chacun des trois musiciens a déménagé dans une ville différente. Il se méfie toujours autant des genres et des étiquettes, évolue aux frontières du rock, du R&B ou de la New Wave. Cette méfiance donne naissance à des disques assez hétérogènes, pour ne pas dire inégaux, mais marqués par des vrais talents de mélodiste, une certaine sophistication dans les rythmiques et un chant somptueux.
some cuts. Your company's a devious crime. And unaware of all of the turns it would take, I had to make it mine. Oh, eins am Kalt, my interior's wasted land. My hips and lips lie idle for yours to replant. Oh, one to spare the key, one to care. One for sheets and single beds. I dare you to set foot in my enclave.
C'est sur Baggage Man du groupe César que se termine aujourd'hui Accent d'Europe. L'émission a été réalisée par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook. À lundi.